Bonjour à tous. Donc, je sais, enfin, je pense que tout le monde n'est pas encore arrivé. Malheureusement, Didier Convard a un train et va devoir partir plus tôt. Donc, on va quand même commencer et éventuellement revenir sur un ou deux points si, voilà, quand d'autres personnes vont arriver. Puis on a une dure concurrence avec tous les auteurs britanniques au Magic Mirror 1. Voilà. Et puis aussi le fait qu'ici, les gens sont souvent en retard dans les tables rondes. On vient, on s'installe. Voilà. Donc, le triangle secret et la bande dessinée ésotérique, c'est le titre qui a été donné à cette intervention de Didier Convard. Donc, tout d'abord, Didier Convard, merci. Nous sommes absolument ravis de t'accueillir aux Imaginales.
Merci.
Voilà, c'est un bonheur et un honneur. Didier Convard est connu, évidemment. Et beaucoup, je ne vais pas dire essentiellement, ça ne serait pas vrai, mais est beaucoup connu au travers du Triangle secret, qui a été et qui est toujours un grand best-seller. 2 millions, tu disais ce matin, 2 millions aujourd'hui de livres vendus, c'est même pas possible. Mais ça m'ennuie toujours de résumer l'œuvre de Didier Convard ou Didier lui-même au Triangle secret. Parce que Didier Convard, d'abord, est un de nos. Allez, il est excellent et un de nos meilleurs, je vais dire, scénaristes. Il a d'ailleurs reçu le Grand Prix du scénario pour l'ensemble de son œuvre, ce qui n'est pas rien. Et quand il s'est attaqué, on va dire, entre guillemets, au roman, ça a été aussi une déferlante de prix, Lady Petit Black, le Manoir d'Horreur, et puis d'autres grandes séries, dont certaines qu'il dessinait, d'ailleurs, et puis bon, après. C'est très difficile, ça mange beaucoup de temps et voilà, le dessin a été cédé. Et donc, comme la série Neige, que peut-être certains connaissent, Chat, bon, et tant d'autres que je ne nommerai pas. Donc, revenons à notre.
Ça fait vieux.
Non, 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 pas du tout, non, mais toi, te résumer à ça, je trouve que c'est quand
Oui.
même assez dommage parce que, et c'est souvent le cas, hein, on réduit un auteur à un best-seller, comme si avant il n'avait rien fait, comme si après il ne faisait rien. Or, derrière, la série Vinci est une série absolument exceptionnelle, magnifique, avec un temps très différent, avec voilà, une écriture, un onirisme très différent et qui est largement aussi intéressante que le triangle secret, vraiment. Mais bon, c'est l'objet de cette conférence, donc nous allons y revenir, le triangle secret. Alors, on va commencer par les genèses, dont tu dois en avoir, mais super assez, mais pour nos amis, tu vas le refaire, de nous raconter voilà, la naissance de cette histoire qui, en fait, voilà, on n'écrit pas comme ça une série en 3 jours. C'est ça que voilà,
Non, parce
tu
qu'en
vas vous
fait,
dire.
le triangle secret, au départ, et ça fait, je vous dis ça fait plus de 25 ans, même presque 30 ans, c'était un roman dont je n'avais pas écrit le dernier chapitre. Donc, bien avant la mode, ce qu'on appelle la mode ésotérique, la mode historique, donc il y a une trentaine d'années, j'ai écrit cette histoire, qui est une enquête de deux chercheurs qui travaillent sur des rouleaux des manuscrits de la Mer Morte. Et qui découvre à un moment donné une faille dans l'un des textes qui correspond à un rituel maçonnique. Ils sont assez surpris de savoir, de constater qu'il y a 2000 ans, il y avait des phrases qu'on le retrouve dans un rituel maçonnique. Donc ils vont enquêter et en enquêtant, ils vont traverser deux mondes, celui de la franc-maçonnerie, celui du Vatican, en réalisant qu'il y a un secret qui est maintenu par le Vatican. On en parlera peut-être tout à l'heure si vous voulez, parce que. Les secrets, ça nous intéresse toujours et il est évident que nous sommes tous à cacher quelques secrets. Donc là, le Vatican ne veut pas, pour des raisons hautement philosophiques et politiques, que ce secret soit réveillé, car ça serait toute une société qui serait fracturée, ça serait d'un seul coup vider le ciel de nos fantasmes qui nous permettent de supporter notre finitude. Et j'avais écrit ce bouquin, j'avais jamais fait le dernier chapitre, je n'y arrivais pas, je n'y parvenais pas, je ne savais pas trop en plus comment le terminer. Et j'avais laissé dormir. Et il s'est trouvé qu'un jour, je discute avec mon éditeur, Jacques Glénat, qui est un éditeur de bande dessinée. qui est un homme catholique pratiquant, je peux le dire, parce qu'il ne s'en cache pas. Et je suis le contraire d'un catholique pratiquant. Et on se met, parce qu'on aime bien parler philosophie, métaphysique, et on se met à parler, je ne sais pas pourquoi, du Christ. Allez savoir pourquoi vous parlez du Christ avec votre éditeur. C'est très rare, mais en fait, c'était le cas. Et j'ai dit, tu sais, au fait, j'ai écrit un bouquin, c'est une enquête sur Jésus-Christ, qui n'est pas mort sur la croix, c'est tiré de certains textes, certaines traditions, et ça se met à l'intéresser, le choc un petit peu, mais ça l'intéresse. Et il me dit, bah, écoute, envoie-moi ton manuscrit, chose que je fais. Et 4 jours après, il l'avait lu le soir, il me dit, bah, écoute, ce manuscrit m'intéresse et on va l'éditer, mais tu vas en faire l'adaptation bande dessinée. Donc, une œuvre que j'avais écrite 20 ans plus tôt, il a fallu que je la reprenne, et qui était écrite pour un roman, devait être transcrite pour faire une bande dessinée. Donc ça a été un gros travail, un gros chantier. J'étais entouré de conseillers historiques, de conseillers scientifiques, parce que je suis qu'un historien amateur, même si je me targue de l'être un peu. J'avais besoin de connaissances approfondies pour écrire cette histoire, dans laquelle interviennent les cathares, Torquemada, les Templiers, le maréchal Magnan sous Napoléon III, etc., etc. Donc il fallait énormément d'informations historiques.
Une forme aussi très novatrice, alors, qui était une grande première en bande dessinée.
Alors la grande première, parce qu'après ça a fait des petits, on en est très fiers avec les éditions Glénat, c'est que c'était une histoire qui se passait en 7 tomes, et c'était une enquête qui part du contemporain, n'est-ce pas ? Mais il y a des retours, chaque album a un retour dans le passé, un flashback d'une 12aine de pages qui est pris en charge par un autre dessinateur. Donc c'est une série faite à plusieurs mains. Il y a 10aine de dessinateurs pour faire les 7 tomes du Triangle Secret. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que les albums ne sortaient pas à raison d'un album tous les ans, c'est un album tous les 6 mois.
Voilà.
Donc, comme un vrai feuilleton.
Ça permet de moins frustrer le lecteur, surtout sur ce type d'énigme. Quoi. Ouais, oui.
Alors pour la petite histoire, quand on a présenté, je le raconte souvent parce que c'est une anecdote assez amusante, quand on a présenté le dossier aux commerciaux des éditions Glénat, avant de mettre en fabrication l'album, Jacques Glénat a dit, on va voir maintenant ce qu'en pensent les commerciaux, comment ils vont traiter le travail. Et quand on a présenté le travail, les commerciaux nous ont tous dit, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est pas possible, la franc-maçonnerie, le Vatican, l'ésotérisme, pas du tout à la mode, mais pas du tout. Parce que c'est vrai que c'était pas à la mode. Ça ne marchera pas. On en a fait près de 2 millions. Donc ça a marché un peu, et les commerciaux se sont trompés.
Oui, puis c'était aussi un culot à l'époque de mettre en scène la franc-maçonnerie. Ça pouvait être à double tranchant, t'apporter des problèmes. Je crois d'ailleurs que ça t'en a apporté un certain nombre, mais pas de la franc-maçonnerie justement, peut-être, mais ailleurs. Enfin, c'est pas...
J'ai rencontré des gens extraordinaires en écrivant cette histoire. Et après, quand les albums ont été publiés, j'ai fait quand même pas mal de conférences, de rencontres, de tables rondes. Il y avait des conférences qui étaient faites avec des gens d'église. On partageait la table de conférence. J'ai rencontré des gens extrêmement tolérants, intelligents, brillants, sans aucune animosité, avec lesquels on pouvait discuter de la résurrection ou pas, et bien entendu qui apportaient leur façon de penser, et des gens paradoxalement non dogmatiques. La même chose avec des francs-maçons, donc des gens très bien, très, très ouverts. Je dois le dire parce qu'il n'y a eu aucun conflit entre les deux parties. Et les gens ont cette intelligence, ces gens-là, les francs-maçons, les gens d'église, ont eu l'intelligence de comprendre que c'était une œuvre romanesque à travers laquelle je faisais passer effectivement quelques idées, quelques valeurs. Hein. Bien sûr, on pourra peut-être les évoquer tout à l'heure. Mais les agressions que j'ai reçues sont venues de l'extrême droite, des journaux d'extrême droite et même physiquement de l'extrême droite, parce que, encore une fois, il y a des réveils comme ça régulièrement, il y a des sujets dont on nous dit qu'il ne faut pas parler. Comme nous sommes des auteurs, nous sommes des hommes libres, et tant qu'il y aura des crétins qui nous en voudront, nous continuerons quand même.
Oui, tu as raison. Donc, le Triangle Secret, c'est un scénario très complexe, une horlogerie très intelligente, très précise. Et ça me rappelle tout à fait le travail des grands feuilletonistes. Alexandre Dumas, pour ne citer que lui, mais Victor Hugo, mais voilà, tous ces auteurs qui ont eu à passer par cette première presse populaire qui était le journal, hein, souvent hebdomadaire, puis quotidien, mais le journal, et qui du coup devait travailler un scénario pour qu'il y ait du suspense, du mystère. On ne pouvait pas s'étendre comme ça, et puis sinon après le lecteur derrière, il ne continuait pas. Donc ça a donné des écrivains et des scènes, à l'époque pas scénaristes bien entendu, mais ça a donné des écrivains de grands talents qui nous ont laissé des œuvres formidables. C'est pour cela que j'en viens à la deuxième partie, et toi t'es leur bébé, c'est clair. C'est pour ça que j'en viens à la deuxième partie, celle de l'ésotérisme, parce que moi je me pose la question de pourquoi œuvre ésotérique. C'est comme si on me disait Alexandre Dumas, il a écrit une œuvre ésotérique, ou Indiana Jones parce qu'il va chercher le Graal, c'est une œuvre ésotérique. Est-ce que c'est parce que ça fait vendre plus, tu penses, que les gens disent ça, ou comment tu considères, toi, alors, ce travail-là?
Le mot ésotérique, depuis, effectivement... quand je parle comme ça, je parle quand même modestement. C'est pas parce que je parle de... C'est difficile de parler de soi parce que des fois, on n'a pas l'air modeste. Mais c'est le cas. Quand on a sorti cet album, on l'a appelé Histoire ésotérique. Mais c'est la première fois quasiment qu'on employait le mot dans l'édition. Alors, comment on l'employait? Parce qu'on a... on cherchait à créer un nouveau genre. On se disait, mais c'est pas vraiment de l'histoire de France. C'est pas l'histoire des religions. On peut pas dire religieux. On peut pas dire maçonnique. Donc on a trouvé ésotérique. Donc c'est pour ça on a mis ce mot-là en exergue et puis on l'a utilisé. Je suis d'accord avec toi parce que je trouve que c'est premièrement un peu galvaudé. Deuxièmement, c'est vrai que c'est pas tout à fait une œuvre ésotérique. En plus, je vais vous dire franchement, je sais pas trop ce que ça veut dire œuvre ésotérique.
Oui, c'est ça. Oui, sincèrement,
ésotérique, c'est ce qui a besoin d'une... Bon, c'est caché, c'est quelque chose de secret, qui a besoin d'une clé pour être compris ou d'une explication pour être ouvert. Bon, alors, beaucoup de choses sont ésotériques. À la limite, tous les romanciers font un petit peu de l'ésotérisme sans le savoir, parce qu'effectivement, on citait Dumas, mais on peut citer Maurice Leblanc, on peut citer Gaston Leroux, on peut citer même d'autres auteurs plus contemporains. Il n'y a pas de problème.
Tous les grands fantastiqueurs. Hein.
Bien sûr, bien sûr. Donc, non, ésotérique, c'est parce qu'effectivement, on est dans un univers du spirituel. On est dans un univers où plus que la foi, c'est la religion qui est présente. C'est une religion laïque avec la franc-maçonnerie, et c'est une religion de foi et de Dieu révélé avec l'Église catholique, apostolique et romaine. Donc c'est aussi un peu pour ça qu'on a dit que c'était ésotérique, oui. Et puis alors, c'est vrai, peut-être que ça aide à le classer, quoi.
Oui, oui, ben alors est-ce que... Bon, on parlera après de ce genre-là. En tout cas, dans cette série, qu'elle soit ésotérique ou aventure, il y a des outils, il y a du mystère, il y a des grands mythes. Alors on ne va pas dévoiler... On ne va pas dévoiler, comme ce matin. Non, on ne va pas dévoiler la fin ou même certains arguments. Mais est-ce que ces choix-là étaient les mystères, si tu veux, que tu as choisi de traiter, qui sont les moteurs de cette série? Est-ce que c'était des mystères qui te travaillaient, ou est-ce que pour toi c'était de bons outils de fiction?
Alors, il y a deux choix. Il y a le choix qui correspond déjà aux lectures qu'on peut avoir faites dans sa jeunesse, dans son adolescence. Moi, j'ai été pétri, mon cerveau a été pétri, effectivement, par Dumas, Leblanc et compagnie. Donc, je les avais en tête et c'est sûr qu'il y a encore les cathares et les templiers qui chevauchaient dans la tête. Et puis, c'est effectivement des outils pour traduire l'histoire, pour traduire cette quête des deux personnages. Et c'est vrai que j'ai trouvé un système pour réunir, raccorder le mystère cathare au mystère templier, au mystère des inquisiteurs, etc. Donc, à la fois, je me faisais plaisir, mais je m'engouffrais aussi dans les failles de la grande histoire. C'est que nous savons tous que ces sociétés initiatiques ou ces sociétés militaires, religieuses et militaires, ont leur comment dirais-je leur épice faite de secrets et de mystères. Les Templiers sont bien entendu riches en mystères. C'est un plaisir pour un écrivain ou un scénariste de piocher dans l'histoire des Templiers. Ouais. Donc, ça coulait de source que j'utilise les Templiers ou les cathares.
pardon, je vais boire un coup. Non, tu parlais de tes recherches tout à l'heure qui ont été effectivement nombreuses. Quand on s'apprête comme ça à créer une série de bande dessinée qui est une œuvre de fiction, qui bien sûr va puiser dans des grands thèmes, cathares, templiers, Graal et d'autres, c'est pas ton cas le Graal, mais enfin et d'autres sous cette forme-là en tout cas. Mais en bref, la documentation est de quel ordre et comment on s'en sert? Est-ce qu'on la prend telle quelle? Est-ce qu'on la détourne? Est-ce qu'on s'en sert différemment?
La documentation, elle est de divers ordres. C'est-à-dire qu'il y a la documentation livresque, ce que l'on peut trouver dans les livres, dans les chroniques, ce que l'on peut trouver dans les musées, effectivement. Et puis il y a la documentation qui est faite en interviewant, ce que j'ai fait à maintes reprises, des spécialistes de tel ou tel domaine, et qui sont des fois des domaines extrêmement précis, extrêmement pointus. J'allais voir des spécialistes d'un domaine, par exemple d'une enluminure particulière. Il y a une enluminure dans l'histoire. J'ai été voir un spécialiste en enluminure parce que je faisais transformer le dessin de l'enluminure pour un détail qui tenait effectivement un autre symbole et une autre histoire à l'enluminure. Donc là, il ne fallait pas faire d'erreur et il n'y a qu'un spécialiste des enluminures qui peut vous le dire. Donc il faut aller le voir et qu'il vous fasse un véritable cours sur l'enluminure. Donc ça, ça a duré pendant plusieurs années. J'ai été rencontré des gens. J'étais en lieu et place des événements, c'est-à-dire que... L'histoire se situe en partie à Troyes ou dans la forêt d'Orient, dans Paris, dans les loges, etc. À Rome, au Vatican, j'ai fait tous les lieux, j'ai pris la cote de tous les lieux, j'ai fait les plans, donc il n'y a pas une seule erreur au niveau de la topographie, de la géographie de mon histoire. Donc ça, c'est ce qui rend crédible une histoire, parce qu'après, on va y mettre plein de mensonges dans l'histoire, hein. On va tricher avec la vérité, on va mentir. Mais elle est sur les mensonges du romancier sont assis sur une base extrêmement solide, très historique, de telle manière à ce qu'à un moment donné, le lecteur ne puisse plus faire la différence entre l'invention de l'auteur et la réalité transcrite.
Oui.
Même moi d'ailleurs, des fois quand je me relis, je ne sais plus trop où est la réalité, où est le mensonge.
C'est sincèrement. Bien, tu te laisses prendre à ton propre jeu, c'est super.
Il m'arrive même de faire des grosses bourdes quand je suis interviewé, parce que je dis des choses énormes en étant persuadé que c'est dans les livres d'histoire. Mais c'est aussi le rôle de l'écrivain de changer, de raconter une autre histoire. Et comme je dis toujours, ce n'est qu'une histoire. Ce n'est qu'une histoire. Parce que c'est le nombre de personnes qui vous disent « Mais vous vous rendez compte ce que vous avez dit là, c'est un scandale. Mais refermez le livre, monsieur. Refermez-le tout de suite. »
Au-delà des... Je ne voudrais pas non plus donner l'impression que le triangle secret n'est qu'une suite de jeux, même non. Si ça l'est, au travers de mystères, de mythes encrustés dans notre humanité. C'est-à-dire qu'il faut, pour que ça marche, pour que ça fonctionne comme moteur, il faut qu'on les connaisse. Donc voilà, si tu vas chercher le mythe de je sais pas quoi, de l'herbe sur le que personne ne le connaît, ça sert à rien. Donc je voudrais pas réduire à ces mythes-là parce que il y a des valeurs importantes, d'ailleurs qui traversent ton œuvre. Et je vais rejoindre avec la question de la documentation ces valeurs d'humanité, de fraternité, etc. qu'on retrouve déjà dans Neige. Là, tout d'un coup. Elle passe dans la réalité, elle passe dans une Neige, pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, on est dans un monde de science-fiction, on va dire. Et là, tout d'un coup, le triangle secret, tu passes à la réalité. Je suppose que ta recherche documentation n'était pas la même. Non. Et que du coup, tu vas traiter ces valeurs différemment. Je vais te lire, vais te citer. J'ai noté une phrase de toi. Tu dis... Neige marque une époque, mais exprime déjà tous les thèmes que je vais explorer par la suite. Humanisme, écologie, guerre, rapport fils-père, mémoire, bref, tout ce qui constitue une civilisation. Ces thèmes, avec au centre la fraternité, sont la pierre angulaire de mon travail de scénariste. Et ça, tu le dis au tout début du Triangle Secret, tout de suite après.
Là, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Alors, c'est bien si on me cite comme ça, ça va me reposer.
Et j'avais noté celle-là. Ouais, non, parce que tu peux commenter quand même.
Neige, l'histoire de Neige, C'est une histoire apocalyptique, enfin, encore que c'est pas une bombe atomique qui a détruit une partie de la planète. C'est justement la science positive des hommes. Les hommes ont cherché à réguler la météorologie de telle manière à pouvoir faire pleuvoir dans des endroits où il ne pleuvait pas pour pouvoir faire des cultures, assécher des endroits où il pleuvait trop. Donc on a fait un circuit de satellites autour de la Terre. Malheureusement, et ça a bien marché pendant quelques 50 ans. Et donc c'était parfait, ça a repoussé les guerres, ça a repoussé la famine, ça a repoussé la pollution. C'est le rêve idéal. Moi d'ailleurs je propose au gouvernement, à tous les gouvernements qui ne m'écoutent pas, mais c'est ce qu'il faudrait faire. Hein. Ça, si on pouvait effectivement faire nourrir la planète, ça ferait reculer les guerres. Mais c'est sûr que ça n'a pas servi les intérêts de consortiums et de multinationales sino-américaines. Qui avaient des armes à vendre, des famines à gérer pour continuer leurs petites affaires, et donc qui ont saboté ce système satellitaire, et si bien que l'Europe est sous une ère glaciaire maintenant. L'Europe est recouverte de neige, il fait moins 40, moins 50, et puis les populations sont décimées, les gens meurent de maladies, d'épidémies, la barbarie renaît. Et alors, pour éviter que ça gangrène le reste du monde qui, lui, n'a pas été atteint par cette épidémie de gel et de glace, on a mis l'Europe sous une couche, sous une cloche électromagnétique. Et donc, plus personne ne peut y rentrer, plus personne ne peut en sortir. Et on la condamne. Et on la laisse maintenant crever sous son dôme. Vous remarquerez que nous ne sommes pas très loin de certaines réalités. Certains États ont tendance à mettre non pas sous une cloche électromagnétique d'autres petits États, et puis les laisser se démerder. Mais il se trouve qu'il y a toujours un peu d'espoir, et dans cette Europe, il y a quelques hommes qui ont encore quelques principes, quelques valeurs, celles de la fraternité, de l'amitié, du respect, de la science partagée, et qui vont créer une société pour essayer de sauver ce qui peut être encore sauvé. Le triangle secret, quasiment à peu près la même histoire. Mais comme je raconte à peu près la même histoire depuis 40 ans, seulement la seule différence, c'est qu'on prend, pour raconter nos histoires, on prend toujours des chemins différents. Mais c'est toujours la même quête, la même recherche qui veut qu'on essaye de parfaire le monde dans lequel on vit. Difficile. Alors, on a des petits outils et on essaye de s'en servir. Mais sinon, le thème générique de mes scénarios, c'est ça, c'est la volonté de rechercher la fraternité et l'humanisme.
Et un monde meilleur. Alors, le triangle secret, c'est bien sûr cette série BD dont nous parlons, mais qui avait commencé par être un roman, et qui finalement va se retrouver à nouveau en roman. Donc, la transcription, la novélisation de la bande dessinée n'est bien sûr pas la même chose que ton premier roman, je suppose. Et je crois me souvenir qu'il y a eu à l'époque quelques contraintes de l'éditeur.
Pour le roman ?
Sur l'écriture, etc. Par rapport à l'action.
Ah oui, tout à fait. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Non, parce que, effectivement, ça c'est très intéressant, parce que quand on écrit un roman, l'écriture n'a rien à voir avec l'écriture d'une bande dessinée. Dans un roman, les personnages pensent, et on peut traduire leurs pensées, on peut dire « ils pensaient que, mais ils disaient cela ». Dans un roman, les personnages peuvent mentir, et on le fait comprendre au lecteur tout de suite. Il avait dit ça, il avait fait ça. Dans la bande dessinée, non, on ne pense pas. Dans la bande dessinée, on dit. On dit et on montre les choses. Mais c'est très difficile de dire, ou alors il faudrait beaucoup de textes en disant, ça serait un peu puéril de dire, il pensait ça, mais alors attends, dans la bulle, il va dire ça. Et le roman était un exercice de style tout à fait différent, c'est qu'il se passait en 3 jours et 3 nuits, donc il n'y avait aucune action, dans le bureau d'un des personnages, qui est le manipulateur de l'histoire, mais qui est l'un des deux collègues qui travaillait sur les manuscrits de la Mer Morte. Et toutes les évasions romanesques étaient faites par des flashbacks. Et l'un des personnages racontait en disant les Templiers se sont installés dans la forêt d'Orient, ils ont asséché les marécages, ils ont construit un barrage. Pourquoi ? Donc on ressortait des cartes et tout ça. C'était en 3 jours qu'ils faisaient l'enquête. Et quand j'ai dû adapter le roman pour faire la bande dessinée, vous vous rendez bien compte qu'on ne peut pas faire une bande dessinée de 7 tomes avec 2 personnages qui vont parler dans un bureau et qui vont avoir des bulles grandes comme ça pendant 54 pages. C'est pas faisable. Donc il parle beaucoup dans mon histoire, mais il a fallu que j'ouvre. Et donc j'ai dû transformer complètement la narration de l'histoire, complètement en racontant, pour raconter la même chose. Donc j'ai réécrit une deuxième fois le Triangle secret. J'ai écrit quatre fois en fait. Et quand le Triangle secret est sorti, qu'il a eu son succès, les éditions Fayard étaient très intéressées. Ils ont dit, ah ben, ça serait bien qu'on en fasse le roman. Vous avez appris qu'il y en avait eu un roman avant. Je dis, oui, mais le roman maintenant, il a changé par rapport à la bande dessinée. Il faut que je réécrive le roman. Donc j'ai réécrit un roman à partir de la bande dessinée, en rajoutant des choses, en enlevant d'autres, parce que bien entendu, c'est la troisième fois que j'écrivais le Triangle secret. C'était toujours la même histoire, mais c'est un exercice intéressant. Toujours la même histoire, mais écrit totalement différemment. Et il y a un producteur de cinéma qui achète les droits et qui me dit qu'il faudrait écrire le film. Donc j'ai écrit une quatrième fois, parce que j'ai fait un scénario de film. Mais on s'en est pas sorti. Il y a eu cinq tentatives, ça n'a pas marché. Il y a encore les droits qui sont quelque part, mais pour l'instant ça ne se fait pas. Mais j'ai donc réécrit une quatrième fois pour faire le film.
Oui, voilà, je voulais évidemment continuer. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied, mais c'est très bien.
Désolé.
Non, mais je t'en prie. Je voulais aussi venir au cinéma parce que moi, je garde en mémoire la série Disparition que tu as co-scénarisée pour la 2, France 2.
La 3, je ne sais plus,
voilà. Ouais. Qui était vraiment très bien, dont j'aurais aimé une suite d'ailleurs, parce que voilà, il y avait de quoi faire une suite qui était bien. Et effectivement, ce Triangle secret dont les droits sont toujours chez un producteur quelconque et qu'on aimerait bien voir au cinéma. Donc je voulais savoir où ça en était. Tu viens
dans le cinéma, le cinéma, c'est très difficile. En plus, des séries comme ça, une histoire comme ça, qui effectivement intéresse les producteurs, il ne faut pas se le cacher. Mais ça les intéresse parce que c'est l'histoire qui leur plaît, la base même de l'histoire, l'essence de l'histoire. Seulement, la difficulté, elle est énorme. Je me suis cassé les dents moi-même. Il y a 5 équipes de scénaristes qui se sont cassées les dents jusqu'à présent. Il y a la Disney qui s'est cassé les dents. Pour l'instant, personne n'a réussi à faire une adaptation de, parce qu'il y a 7 tomes avec des histoires extrêmement complexes, avec 4 personnages principaux, mais dont certains disparaissent en cours de route. D'ailleurs, donc c'est difficile pour un film parce que le héros, c'est rare quand il meurt à la première bobine, hein, c'est embêtant, surtout si son salaire est très élevé.
Non, en général, ceux qui meurent, on le sait tout de suite, c'est les acteurs pas connus. Voilà. On dit, oh, ben, il va mourir, lui.
Et surtout, c'est qu'il y a énormément de personnages secondaires et surtout beaucoup, beaucoup d'œil. On ne peut pas raconter l'histoire sans avoir ces interactions et ces flashbacks dans le temps, donc la grande séquence des Templiers. Et alors, il y a eu un producteur on a été très, très loin dans le travail, même dans la pré-production, dans l'écriture de 3 versions du scénario. Il y en avait une qui semblait intéressante. Le problème, c'était le chiffrage financier du film qui était considérable, car on avait réduit au maximum les séquences de flashback pour pas non plus trop interrompre la narration contemporaine de l'enquête. Mais il y avait la prise de Saint-Jean d'Acre, qui sont quand même quelques milliers de croisés sur la plage. Il y a les nefs, ça coûte très cher à faire. Après, il y avait les bûchers le bûcher de Montségur, il y avait Torquemada, et il y avait une reconstitution à l'époque de Napoléon III. Donc à chaque fois, on avait un budget quasiment d'un petit film en costume, donc c'était très cher.
Il y avait une partie en numérique,
effectivement, et puis une partie en copie, comme on dit, on tourne, oui. 25 acteurs et puis on les reporte.
Voilà,
ça,
on les reporte.
Ouais. Mais ah pardon, ah oui.
Et si ça marche, ça, comme après, de toute façon, je vais vous laisser dans la salle. Voilà, parce qu'on n'entend pas la dame là.
Tout à fait. Non, on se tourne actuellement, vous avez entièrement raison, on se tourne actuellement vers ce genre de production. En plus, parce qu'on peut faire plusieurs films. On n'est pas tenu par un format de cinéma d'un film de 2h, 2h20, ou de 2 films de 2h20, ou un triptyque. Et l'intérêt de ce genre de production, c'est qu'on peut faire 7 films, on peut faire des saisons entières. Alors là, il y a eu un malheur, il s'est passé un malheur, ça aurait dû être fait depuis longtemps, mais c'est trouvé que mon agent a fait une erreur, la Gaumont avait signé un protocole d'achat sur le Triangle secret, et en même temps, Canal+ avait signé un protocole qui n'était pas un protocole d'achat, c'était un protocole d'accord, c'était assez complexe. Et Canal+ quittait le protocole, et donc la Gaumont me dit, bon, bah, c'est pour nous, c'est-à-dire que demain, on a le film et on va le tourner, et tout était fait, les acteurs étaient prêts, c'était pour la télévision, donc il y avait 7 films, un film par album. Et je dis ça à mon agent, qui a fait une petite erreur politique. Il a téléphoné à Rousselet, chez Canal, et puis il leur a dit, bah, tiens, c'est tant pis pour vous, vous avez loupé le triangle, et c'est la Gaumont qui va le récupérer. Et le producteur lui a dit, bah non, parce qu'on a jusqu'à minuit pour signer le nouveau protocole, et ils ont signé le protocole, ils n'ont jamais fait le film. Et la Gaumont s'est fâchée, n'était pas contente d'avoir vu le contrat lui passer sous le nez. Et on a fait disparition pour ça, c'est parce que le patron à ce moment-là voulait à tout prix qu'on travaille ensemble. Et il était mécontent de ne pas pouvoir faire le triangle secret. Et je le regrette parce que c'est un homme extrêmement intelligent qui avait bien compris, qui avait bien vu ce qu'il fallait faire avec le triangle secret. C'était pas, il voulait pas mettre une fortune dedans, c'était vraiment intelligent. Il voulait privilégier le scénario, les acteurs, la psychologie des personnages. Et on n'avait pas les moyens en France, effectivement, financiers. Enfin, il y avait une coproduction allemande avec l'Allemagne, mais on n'avait pas les moyens financiers de faire les grosses reconstitutions. Mais on avait trouvé un système pour les montrer qui était tout à fait agréable et joli à l'œil. Et donc, il a dit, bah, je terminais le triangle secret, je ne vais plus en entendre parler. Et il m'a branché sur disparition. Quoi. Je l'ai revu depuis, parce que je travaillais quand même pas mal de temps avec lui, puis j'ai travaillé après. J'en ai reparlé et il me dit, un bon contrat qui meurt telle année n'est pas valable 10 ans après.
Oui, mais c'est le cas pour beaucoup, ouais. beaucoup d'auteurs. Enfin, beaucoup d'auteurs. Les quelques auteurs qui ont été pressentis pour qu'un de leurs livres passe en film racontent souvent cette question des droits bloqués. Oui. Quelqu'un dit ça, on pourrait le faire, il bloque les droits, il ne le fait pas, mais les droits sont bloqués pendant temps.
Les droits sont bloqués longtemps. Voilà, alors,
personne ne peut plus le faire. Et
aux éditions Glénat, on vend les droits, on cède les droits. Pour des temps assez courts, mais ça peut être bloqué 5 ans. Moi, je sais que le premier blocage de droit du triangle secret avait été bloqué 2 ans, tant mieux, parce qu'ils n'avaient rien fait. Ensuite, ça a été 3 ans. Mais de toute façon, depuis qu'il est né, depuis 15 ans, tous les ans, il y a des droits, ou tous les 2 ans, il y a des droits qui se vendent. Et alors, ce qui est marrant, c'est l'anecdote, c'est que mon éditeur Jacques Lédam dit un jour, il ne sera jamais le film. Mais il dit tant mieux parce que ça nous rapporte plus d'argent que s'il était fait. Parce que chaque année, les produits. C'est une plaisanterie parce que c'est pas si cher que ça. Mais c'est une plaisanterie assez amusante de la part d'un éditeur. Bon, il dit de toute façon, on est content parce que la bande dessinée marche bien. Il y a le roman. Il dit le cinéma, c'est en plus.
Il paye les droits.
Voilà. Et à chaque fois, le producteur est obligé de payer le loyer quoi, pour avoir le droit de poursuivre le travail sur le film. Alors l'éditeur et l'auteur reçoivent un chèque du producteur. Et donc c'est amusant, quoi. C'est sûr. Alors lui dit en boutade, comme ça, il dit ça fait 15 ans que ça nous rapporte de l'argent alors qu'on ne fait pas le film, qui continue 15 ans. Mais c'est dommage parce que moi je ne suis pas un auteur de cinéma frustré, je ne fais pas de la bande dessinée, pour moi ce n'est pas le parent pauvre du cinéma, c'est deux domaines différents. J'adore la bande dessinée, c'est un univers de liberté extraordinaire et sans contrainte. On peut mettre faire des films à grand spectacle en bande dessinée, on peut mettre des milliers de figurants, ça ne coûte pas plus cher que si on avait 2. Ah, c'est plus de temps pour le dessinateur. Voilà. Mais le triangle secret, c'est un peu différent parce que ce n'est pas qu'une bande dessinée, c'était un roman. J'avoue avoir toujours pensé au film quand je l'écrivais. Donc c'est sûr que comme ce sont des médias différents, que ce soit le roman, la bande dessinée, le film, je sais que si on est malin, on peut faire un très beau film. Parce que c'est émouvant, c'est une histoire d'amour entre un homme et la femme de son frère qui est mort assassiné, avec une culpabilité que cela représente d'aimer la femme de son grand ami qui vient de mourir. C'est difficile. C'est une histoire de fraternité qui se construit. C'est une histoire, c'est une enquête policière, tout autant une enquête historique. Donc il y avait, je crois qu'il y avait matière à, mais comme vous disiez, il y avait matière à fédérer un public important, comme savent faire actuellement les Anglo-Saxons avec leur extraordinaire série, c'est sûr. Mais en cinéma ou en télévision, quand le train est passé, il revient rarement. Parce que c'est recouvert, les projets sont recouverts. Bon, pour venir, peut-être que mes ayants droit dans 25 ou 30 ans.
Il faut laisser autant, les choses, autant, le temps de se faire. Ça doit se faire, ça se fera. T'inquiète pas. Il nous reste que 10 petites minutes. Donc ces 10 petites minutes, on va vous les donner. Si vous avez des questions, bien entendu, à poser à Didier Convard. Sinon, on parlera de tes projets. Mais peut-être avez-vous des questions. Alors là, on va vous donner le micro pour qu'on vous entende bien.
Bonjour.
Non. Bon,
oui, oui. Voilà. Alors,
ce qui t'a nourri.
Ce qui m'a nourri, c'est la. Quand j'ai écrit le roman du Triangle Secret, c'est paradoxal, je l'ai écrit parce que je me dis que ce n'est pas une bande dessinée. C'est paradoxal, et ça a été le succès de ma carrière, enfin le gros succès. Donc ce n'est pas une bande dessinée, alors j'ai écrit un roman. Quelles étaient mes inspirations? Je vais vous les dire. Elles sont très simples. J'avais un grand-père adoptif qui vivait en Gironde, qui était un homme extrêmement cultivé, qui m'a initié à beaucoup de choses, dont la franc-maçonnerie, la lecture. J'allais passer mes vacances chez lui quand j'étais gamin, du plus petit âge jusqu'à ce qu'il disparaisse, et donc adulte. Et je le voyais certains soirs disparaître, et il avait un hôtel-restaurant, et il revenait avec une vingtaine, une trentaine d'hommes habillés en noir, avec des nœuds papillons, et il s'enfermait dans le restaurant, et il faisait des agapes. J'ai appris plus tard qu'il revenait de la loge avec ses frères, et qu'il faisait des agapes dans son restaurant. Et un jour, j'avais 14-15 ans, il me dit, jeudi soir, si tu veux, tu viendras manger avec nous. Je ne savais pas ce que c'était à l'époque, hein. Et j'ai assisté au repas des premières agapes de ma vie. Et puis, j'étais assis entre lui et un monsieur, je me rappelle, très corpulent, très impressionnant. Et j'entends deux hommes qui parlent en face et qui disent il a été fort dans sa planche. Ça s'appelle une planche, un travail en loge. Il a été fort dans sa planche. Et non, le Christ ne meurt pas sur la croix. C'est le frère jumeau. Moi, j'avais 14 ans. J'étais catholique, pratiquant, premièrement choqué, intéressé, intrigué, être à la fois dans un cénacle mystérieux où je faisais partie d'une tradition qui s'ouvrait à moi. Bon. Et puis j'en ai parlé à mon grand-père adoptif le lendemain, et il m'a donné des livres à lire, des livres qu'on ne trouve pas dans le commerce, hein. Et puis des planches, et puis et puis on a parlé. On a parlé, il m'a parlé de certaines traditions, de certaines traductions, etc. Bon, c'est resté endormi en moi. Et puis j'ai rencontré 20 ans plus tard, j'ai rencontré un très vieux journaliste avec lequel je me suis lié d'amitié, qui était infirme et qui vivait seul. Sa femme était morte. Et je, avec 3-4 amis, on allait le chercher, parce qu'il habitait un appartement sans ascenseur, il était au 5e étage, et comme il n'avait plus de jambes, on allait le chercher, on le portait, puis on l'emmenait au resto, et on passait une journée avec lui au resto à discuter. Il était cultivé, brillant, un journaliste qui était au Monde, au Canard Enchaîné, enfin un type extraordinaire. Et puis un jour, on se retrouve tous les deux au café, il me dit, tu connais l'histoire du frère jumeau du Christ ? Alors je lui ai dit, on m'en a parlé il y a 20 ans, j'étais gamin, j'aimerais que tu m'en parles aussi. Et je crois que c'est très peu de temps après que j'ai commencé à fouiller à cette légende, à lire les quelques livres autour de cette légende, de cette tradition. Les interprétations fumeuses ou non, hein, faut pas le cacher, hein, mais c'est évident. De toute façon, on peut être fumeux sur quelque chose qui dans l'histoire du monde, ne fait que quatre lignes à tout casser. Hein. Donc, c'est là où j'ai commencé. Et alors, ce qui a été surprenant, c'est que je pensais rentrer dans un monde excessivement clos et où c'était un truc qui n'intéresserait personne. Et alors, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui connaissaient l'histoire frère du Jobo du Christ. Alors, j'ai commencé à m'y intéresser. C'est là que j'ai commencé à écrire Le Triangle Secret.
Merci d'avoir posé cette question, parce que cette histoire-là, je ne la connaissais pas. Ah. Donc, merci. Est-ce qu'il y a une autre question pour que j'entende d'autres histoires? Allez-y.
Ah, alors ça, ce sont les histoires personnelles que vous vivez aussi. Non, mais bien sûr, non, mais y a pas de, ce sont les histoires personnelles que l'on vit. C'est qu'à un moment donné, la pratique ou la foi qu'on a ou la croyance ne répond plus à, ou répond mal à vos questions, à vos interrogations, et vous cherchez d'autres chemins, non pas pour avoir les réponses parce qu'elles n'existent pas, mais au moins pour avoir des questions plus qui vous correspondent mieux, qui vous désangoissent, qui sont plus satisfaisantes pour vous. Moi j'ai quitté, j'étais très croyant, hein, j'étais très pratiquant, mais vraiment, vraiment. Hein, moi j'étais vraiment pour le bon Dieu, j'étais du pain béni là. C'était, et d'ailleurs je pense j'espère qu'il n'oubliera pas, parce que vraiment j'étais un super marketeur du bon Dieu, moi. Et puis du jour au lendemain, pas du jour au lendemain, par les rencontres aussi, hein, des gens comme les gens que j'ai rencontrés, les deux, que ce soit mon grand-père adoptif qui lui était de l'autre côté, ce journaliste, cet ami qui était aussi, qui était en plus arabe, donc il avait absolument une autre philosophie, donc c'était passionnant pour moi. Et je me dis non, il n'y a pas que ça, quoi, il n'y a pas un dogme, il n'y a pas qu'une réponse, il n'y a pas que ça. Donc j'ai cherché ailleurs et j'ai abandonné ce que j'avais parce que c'était pas satisfaisant pour moi. Mais par contre, il y a une chose qui ça m'a appris une chose, c'est le respect total de toutes les croyances, de toutes les religions et de toutes les non-religions. Ça c'est je trouve que c'est la règle d'or pour vivre en parfaite harmonie sur Terre. Oui, tout à fait. Parce que j'étais un catho qui allait à des conférences, des réunions, je rencontrais les hommes, les gens d'église, je faisais des retraites, donc j'apprenais beaucoup et je lisais beaucoup. Donc ça m'a beaucoup servi, j'ai bien fait de le faire, parce que comme j'ai pas été dans des écoles religieuses, j'étais professeur des écoles religieuses. Et bien donc ça m'a beaucoup servi. Là, je suis très content. Ouais. J'ai fait mon apprentissage là. Tout ça pour faire le Triangle Secret.
Merci à vous. Une dernière question parce que il ne nous reste plus que 4 minutes. Ah bon, donc
bon. Alors. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et vos questions et vos sourires. Merci.